Mesdames, Messieurs, chers amis et chers collègues, avant tout, je voudrais remercier les organisateurs de la conférence. Merci pour l'invitation et pour la possibilité de participer au débat de sujets si importants et si actuels que le sujet de la mémoire de la Révolution russe de 1917. Pour moi, personnellement, le thème de la Révolution russe a une grande importance. J'édite la revue Solovyovsky Isledovania et je suis responsable du centre de recherche dont l'activité est liée à la recherche de l'héritage de Solovyov. Et le fondateur de la revue est l'Université d'État d'énergétique d'Ivanovo qui porte le nom de Lénine. Lénine a organisé la révolution d'octobre. Il était chef de l'État soviétique. Il déterminait sa politique, y compris les politiques culturelles. Lénine a signé le décret sur la fondation de notre université en 1918. Il est difficile de trouver deux personnalités si opposées et irréductibles que Solovyov et Lénine. Mais ils se sont croisés à notre université à la fin du XXe siècle et commencement du XXIe siècle. Ces années, j'ai commencé à éditer la revue et j'ai fondé le Centre de recherche de l'héritage de Solovyov, qui est bien célèbre au milieu scientifique comme le séminaire de Solovyov. Ce croisement de Solovyov et Lénine a créé une conception unique où je dois vivre et travailler. Solovyov et Lénine ne se connaissaient pas, mais il y avait, on peut le dire, deux rencontres virtuelles de Lénine et Solovyov. La première en 1900, la deuxième en 1918. Ces rencontres sont directement liées au sujet de la mémoire de la Révolution. C'est la première circonstance qui m'incite à réfléchir sur le 5e anniversaire de la Révolution. La deuxième circonstance est un environnement personnel. J'habite la ville dont l'histoire est étroitement liée aux révolutions russes, à la révolution de 1905 et à la révolution de 1917. La mémoire sur les révolutions est gardée au nom des rues, aux nombreux monuments en honneur des révolutionnaires, au nom de notre université. La toponymie urbaniste est exceptionnellement intéressante. Nous pouvons passer non seulement par la place de la Révolution, mais aussi par l'avenue Lénine, ensuite tourner à la rue Karl Marx, ensuite à l'avenue Friedrich Engels qui s'introduit à la place de la Révolution. C'est comme ça que l'anneau urbain marxiste-léniniste ferme. Mais depuis peu, cet anneau a été rompu. L'avenue Friedrich Engels a été renommée en avenue Comte Cheremetiev. Les changements physiques ont détruit le sens métaphysique de la toponymie urbaine. Mais nous pouvons nous consoler de la promenade par les rues Boyevikov, ces combattants, puis nous cacher dans les ruelles conspirativne, qui signifie secret, et nous promener calmement au parc de 1905. Je voudrais noter qu'il y a quelques ressemblances des destinées historiques d'Ivanovo et de Lyon. Auparavant, cette ville était centre d'industrie textile, centre des importants événements révolutionnaires. Quand nous sommes à Lyon et nous parlons du passé révolutionnaire des tisseurs d'Ivanovo, nous nous souvenons bien sûr les révoltes des tisseurs de Lyon en 1831, et en 1834, nous nous en rappelons. Comme vous pouvez le voir, à première vue, tout est bien en ce qui concerne la mémoire historique. Et pourtant, en Russie, l'attitude envers le 5e anniversaire de la Révolution est loin d'être univalente. En Russie, le 5e anniversaire de la révolution a le statut officiel. Dans le message du président de la Fédération de Russie à l'Assemblée fédérale, nous lisons « L'année à venir 2017, c'est 5e anniversaire des révolutions de février et d'octobre. C'est une bonne raison de nous adresser encore une fois aux causés et à la nature même de la révolution en Russie. Non seulement pour les historiens et pour les chercheurs, la société russe a besoin de l'analyse profonde de ces événements. Je suis persuadé que les leçons d'histoire sont nécessaires pour nous, principalement pour les réconciliations, pour les renforcements de l'accord social, politique, civil que nous avons réussi à l'atteindre aujourd'hui. Rappelons-nous, nous sommes le peuple uni, le peuple unique, et notre Russie est unique. Oui, le peuple est unique, oui, notre Russie est unique, mais dans la société russe, il n'y a pas d'un seul point de vue sur cet anniversaire. Le ministre de Culture affirme que les objectifs de l'action consistent à souligner notre grandeur russe et la valeur dans le monde, de l'autre côté, à renforcer l'union de la société russe et assurer la réconciliation nationale. Le président du comité d'organisation d'anniversaire et le président de l'Institut d'État de relations internationales de Moscou, Anatoli Torkounov, a prévu « Nous nous fondons sur que ce thème ne doit pas devenir le prétexte pour la confusion et la détérioration dans la société. » Le célèbre historien et publiciste Sergei Karamurza se lamente. Dès le début, le sens du titre de l'événement n'a pas été défini. 100 ans de la Grande Révolution russe. Comment cette formule a-t-elle apparu? Déjà au XIXe siècle, dans la polémique avec les populistes, il est devenu clair qu'en Russie, deux révolutions aboutissaient, celle de février et celle d'octobre. Elles étaient non seulement différentes, mais hostiles l'une par rapport à l'autre. Leur exil et but étaient principalement différents, elles étaient irréconciliables. Comme nous voyons, la dissidence était très significative. Sergei Karamurza note l'anniversaire de la révolution en 2017 est une action politique grosse de l'approfondissement brusque de la désintégration de la société. Que faire maintenant avec cet anniversaire? La communauté scientifique russe répond définitivement à cette question. Il faut célébrer le 5e anniversaire de la grande révolution russe. Tout au long de l'année 2017, dans les plus grands centres de recherche, on organise des conférences consacrées à la révolution. Ce sont les centres de la capitale, ceux de la province, des universités et des académies de Moscou, de Saint-Pétersbourg, de Nijni Novgorod, de Saratov, de Yekaterinbourg, d'Omsk, d'Ufa, de Lanoudé, de Novosibirsk et d'autres villes. En un mot, l'intention au sujet de la révolution est énorme. Même l'Académie théologique de Saint-Pétersbourg participe à cette large action scientifique. Et tout va finir par le Festival de Lumière à Saint-Pétersbourg, les 4 et 5 novembre, on a déclaré que cet événement est consacré au centenaire de la Révolution. Le thème de conférence proposé pour le débat en Russie sont sûrement actuels et importants. Il appelle les chercheurs au dialogue interdisciplinaire. Il est important de noter encore un moment essentiel. Dans la plupart des formules proposées, la révolution russe est envisagée comme le processus unifié de révolution qui a commencé avec des événements de février 2000, 1917 et qui a fini avec la victoire des adhérents du pouvoir soviétique pendant la guerre civile. Le thème de la mémoire est d'une importance primordiale pour nous. Ce thème est discuté lors de nombreuses conférences, mais en Russie, il y a le centre de recherche qui étudie ce sujet depuis plusieurs années. C'est l'Université nationale de recherche de Saratov. Les conférences scientifiques consacrées au thème de la mémoire sont régulièrement organisées ici. La dernière était la quatrième conférence scientifique, la mémoire historique dans la monde post-national, MIF, rituel, représentation qui a eu lieu en 2016. Une quantité considérable de publications sont consacrées au thème de la mémoire de la Révolution. Parmi les recherches des théories générales, il est à noter les articles de l'auteur de Saratov, de Daniil Anikin. Ce sont les articles sur les problèmes de la mémoire historique en tant que facteur de la transformation révolutionnaire, de la stratégie de la connaissance historique, de la politique nationale de la mémoire en Russie post-soviétique. Les problèmes de la mesure super-individuelle et de son champ sémantique sont envisagés par tel auteur que Makarov et Lidovskaya. Les problèmes méthodologiques de l'étude de la mémoire sont examinés dans les articles du recueil « L'Empire et la Nation dans le miroir de la mémoire historique » paru à Moscou en 2011. Les études sur la mémoire sociale, culturelle et historique et sur le d'élimination des notions la mémoire historique et histoire collective provient des œuvres de Maurice Halbwachs, philosophe français, sociologue social et psychologue social. L'intérêt envers l'étude de la mémoire historique et collective est très grand en Russie. En France, l'impulsion vers les discussions scientifiques sur ces problèmes parmi les historiens a été la publication de l'œuvre de Pierre Nora, « Les lieux de la mémoire ». En Russie, ces travaux sont bien connus. Pour l'élaboration du sujet de la mémoire sur la Révolution russe, les œuvres du professeur Georges Niva représentent un grand intérêt, et surtout les recueils célèbres, les sites de la mémoire russe édités sous la direction. En 2003, l'Institut de la France et des cultures francophones à l'Université de Floride a organisé la conférence internationale « La mémoire culturelle en France, centre et périphérie ». Les participants de la conférence cherchaient les réponses aux questions suivantes. Comment et pourquoi les fragments de la mémoire collective séparés autrefois se réunissent-ils en une conception entière du passé, à un moment ou un autre? Jusqu'à quel degré seront-ils adaptés ou assimilés par les mémoires collectives dominantes? Comment certains qui étaient autrefois confinés à la notion de passé se manifestent-ils activement pour démolir les conceptions dominantes des événements historiques? Toutes ces questions restent actuelles dans l'étude de la mémoire sur les révolutions russes de 1917, dans leur valorisation par des philosophes de l'étranger russe. Elles surgissent quand les chercheurs envisagent le contexte de la discussion des questions sur des choix historiques de la Russie, sur l'idéal social, quand il envisage la spécificité de la mémoire historique des représentants des directions conservatives et libérales de l'immigration russe. En Russie, il existe un vaste choix de la littérature de recherche sur ces questions. Comme un aperçu général de l'historiographie moderne de l'immigration russe, on peut nommer un grand article de Igor Martyniuk, publié dans un recueil « L'Empire et la Nation dans le miroir de la mémoire historique. L'article est consacré à l'examen de questions de l'étude des sources et à l'histoire de l'étude de l'immigration russe dans la littérature russe et étrangère. Il est à noter les recherches monographiques professeur Gaman, professeur Omelchenko, professeur Prokopenko, les travaux, par exemple, de professeur Alevras représentent un intérêt considérable et son article « La révolution dans le dialogue des migrants sur le passé et le futur de la Russie ». Aujourd'hui, on peut parler de la littérature de recherche colossale consacrée aux philosophes immigrants russes particulières. Par ailleurs, il est à noter qu'il existe une couche colossale de la littérature non lue et impensée. Ce sont des articles qui se trouvent dans les périodiques des immigrants et qui démontre les nuances des attitudes envers la révolution. L'analyse des contenus de revues comme Современные записки, Воля России, Грядущая Россия, На чужой стороне, Новый град, Русская мысль, Русские записки, Числа и другие permet conclure les thèmes les plus importants qui se rapporte à la question de la mémoire sur la révolution russe. Dans les discussions des revues, les émigrants russes cherchaient les sens religieux de la révolution, estimaient les événements politiques en Russie et en Europe, analysaient la disposition des forces sociopolitiques dans l'immigration, faisaient le résumé de ce jour à l'étranger et du développement soviétique de la Russie. Les souvenirs de Marx Vishniak, воспоминания редактора, dont le matériel très riche pour la compréhension de la perception par des émigrants russes des événements de la vie en cours et du rôle que la catastrophe vécue a joué. L'organisateur et le chef d'octobre n'étaient pas privés d'attention. De nombreux immigrants russes donnaient le portrait sociopolitique de Lénine. En 1924, dans Русская мысль, Struve a publié l'article « Le sang propre et la fin nécessaire du communisme bolchevique » à propos de la mort de Lénine. En 1932, Marc Vishniak, le coéditeur de Современные записки, a publié un vaste article Бескорыстный Герострат, où il a fait le portrait psychologique, intellectuel et politique de Lénine. On a publié les souvenirs de ceux qui connaissaient Lénine en personne. En ce qui concerne Marc Aldanov, Boris Zaitsev, Tefi et Yuri Felsen, ils ont rempli un questionnaire sur Lénine proposé par la revue Chisla. Dans ce questionnaire, il y a trois questions. Personnalité, activité, style. Les réponses étaient différentes, tantôt étendues, tantôt très brefs, comme par exemple chez Boris Zaitsev. Il a écrit « J'ai répondu avec plaisir à Chisla sur n'importe quel sujet, sauf celui proposé. Lénine est si vil pour moi que je ne peux point ni penser de lui, ni écrire. » Marc Aldanov a donné la réponse à ces vagues. C'est un homme éminent, un homme d'une grande participée, d'une volonté énorme, d'une croyance illimitée, et soit en son idée. Et voilà, par exemple, la réponse contemporaine sur Lénine de Madame Hélène Carré Dankos, président de l'Académie française. Elle est née dans la famille des immigrants russes georgiens. Cette réponse est dans son livre « Lénine ». Le but de ce livre consiste d'arracher Lénine de l'embrasement de passion idéologique et de le mettre dans l'histoire du siècle passé, que cela nous plaît ou non, était sous le pouvoir de ses idées et de sa volonté. Hélas, c'est impossible de le mettre dans l'histoire du siècle passé. Et voilà, nous revenons à la rencontre virtuelle de Lénine, Vladimir Soloviov et de Vladimir Lénine. La première rencontre de Lénine avec Soloviov a eu lieu en 1900, quand le grand philosophe était déjà mort. C'est à propos du nécrologe pour Soloviov que le père du marxisme russe, Plekhanov, s'est adressé à Lénine en automne 1900. Il faut écrire sur Soloviov, mais qui écrira ? Lénine a répondu à Plekhanov. Je pensais sincèrement que vous auriez envie d'écrire une interfilée sur Soloviov. Plekhanov à Lénine. Je ne peux pas écrire sur Soloviov. J'ai lu seulement quelques œuvres, deux ou trois articles dans Vestnik Europe et la traduction de composition de Platon. Ce n'est pas assez. L'entrefile sur Soloviov n'est pas survenue. La deuxième rencontre de Soloviov avec Lénine a eu lieu en 1918. Le 30 juillet 1918, le conseil de commissaires de peuple a étudié le document avec titre suivant. La liste des personnes auxquelles il fallait ériger les monuments à Moscou et dans d'autres villes de la République sociale fédérative soviétique de Russie. Le document avait été préparé par les commissariats de peuple d'éducation. Le conseil des commissaires du peuple, dont le président était Lénine, a déclaré « Conclure Soloviov de la liste ». Comme ça, en un trait de plume, le nom de Soloviov était retiré de la mémoire. Dans aucune ville de la Russie, il n'y a pas de monument en honneur l'honneur de Vladimir Soloviov. Probablement, et ironiquement, ou à la demande du pouvoir suprême du destin, les voix de Lénine et Soloviov se sont croisées à l'université d'état énergétique d'Ivanovo. Ici, ils vont bien silencieusement. Le nom de Lénine sur les documents officiels de l'université et le nom de Soloviov sur la couverture de la revue Soloviovski Isledovania. C'est la mémoire et métamorphose de la mémoire. Merci pour votre attention.
Большое спасибо профессору Максимову. Если есть вопросы, давайте сейчас быстренько зададим их докладчику.